On apprenait récemment que Montréal accueillera une semaine de la mode taille plus au printemps prochain, comme il en existe d'ailleurs dans plusieurs grandes villes, dont Londres et New York. C'est une nouvelle qui s'inscrit dans un courant important en faveur de la diversité corporelle, un mouvement qu'on voit surtout se manifester sur le web, grâce entre autres au travail des blogueuses taille plus. Mais un mouvement qui est loin de faire l'unanimité, il faut le dire. Certains dénoncent une apologie de l'obésité, voire des mauvaises habitudes alimentaires. Est-ce qu'en 2015, on doit encore militer pour que les filles rondes aient leur place dans l'industrie de la mode, même dans la société en général? On en parle avec deux filles qui en ont long à dire sur le sujet dans cette nouvelle balado Châtelaine. Alors, bienvenue à la balado Châtelaine, la version audio de votre magazine, tout plein d'informations, de coups de cœur, de tendances au menu aujourd'hui. Mes collaboratrices du jour, Joanne Lauzon à la santé, bonjour.
Allô, Christelle.
Alors, qu'as-tu au menu aujourd'hui, Joanne?
Du sucre, que du sucre.
Miam. Ça ne devrait pas être mon premier réflexe, je le sais. Martina Jogo à la chronique On mijote l'actu, on parle de nouvelles virales. Qu'a-t-on au menu?
Alors, cette semaine, le magazine américain Vogue a dressé une liste des hommes les plus sexy du monde et, surprise, un certain député de Papineau s'est glissé parmi la sélection finale.
Titillant. Évidemment, nous aurons nos coups de cœur culturels plus tard à l'émission. Annabelle Moreau vient nous parler de quatre marchés de Noël qui valent vraiment le détour. Et Mathieu Charlebois, fidèle à ses habitudes, nous entraîne sur le chemin surprenant de ses découvertes musicales. Mais d'abord, j'en parlais en début d'émission de ce mouvement en faveur de la diversité corporelle qu'on voit beaucoup sur le web, dans les blogs. Une excellente nouvelle, un travail qui a permis, je dois le dire, de changer certaines perceptions, notamment dans l'industrie des médias et celle de la mode. Tout n'est pas gagné, on va se le dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est un travail qui ne se fait pas sans difficulté, car ces fameuses blogueuses qui tiennent le fort de ce mouvement important ont leurs détracteurs. J'en parle aujourd'hui avec Joanie Pietracupa, qui est journaliste et qui tient également le blog Ronde et Alors sur le site web de Châtelaine depuis le mois de mai dernier, et avec Gabrielle Lisa Collard, qui est journaliste indépendante et qui signe un texte sur la diversité corporelle dans le livre Ton petit look, inspiré du blog du même nom. Bonjour, mesdames.
Salut. Bonjour.
Bienvenue à cette balado.
Merci.
Merci.
Je commence avec toi, Joanie, parce que ton blog sur Châtelaine est assez récent. Ça date du mois de mai dernier. Donc, on parle d'à peu près 7 mois. Et jusqu'à maintenant, c'est une expérience qui comporte quand même son lot de surprises, puis pas toujours positives.
Oui, complètement. Je t'avoue que je m'attendais effectivement à ce qu'un blog de ce genre-là fasse réagir, mais pas de la façon qu'il l'a fait. C'est drôle, j'ai vraiment eu des réactions opposées des lectrices. Autant j'ai eu tout plein de femmes qui embrassent mes propos pour diversité, qui sont super encouragées, qui se disent inspirées, puis ça me touche vraiment, vraiment. T'sais, limite, je m'attendais pas à autant d'amour. Là. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis à la fois, je te dirais que j'ai vraiment beaucoup de lectrices qui, justement, pensent que j'encourage l'obésité, les mauvaises habitudes de vie, d'alimentation, alors qu'il suffit de lire un texte pour savoir que c'est pas du tout ça dont je parle.
Mais c'est assez représentatif, les réactions que tu reçois, de ce qui se passe sur le web en général.
Exact.
Quand on parle de ça.
Exact.
C'est vraiment ça. T'as d'un côté les gens en faveur de la diversité. C'est un mouvement quand même assez fort, positif.
Oui.
Il y a beaucoup de blogueuses qui
tiennent ça. Oui, puis c'est encore surprenant pour moi qu'en 2015, ça soit un sujet controversé. C'est comme si je ne comprends pas, je veux dire, détails. C'est pas une affaire, t'es pour ou contre, là. Il me semble
on dirait que ce livre sur le web, il y a quelque chose de très polarisé.
Oui. Puis, tu sais, je me souviens, il y a même une lectrice pendant l'été qui m'a écrit quelque chose comme « Comment on fait pour plus voir les gens plus ronds dans la société, et plus j'étais là, ben change de planète, madame. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut accepter qu'il y a vraiment une diversité corporelle. Je comprends que les silhouettes ont tendance à s'empâter un peu. Il suffit de voir aux États-Unis à quel point, tu sais, il y a de plus en plus de gens taille plus. Puis il faut faire attention à ça parce qu'on veut évidemment prôner une bonne santé. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Tu sais, c'est sûr que je veux que tout le monde dans mon entourage soit en santé et vive le plus longtemps possible parce que je les aime puis je veux les garder près de moi. Mais en même temps, il faut accepter que c'est pas tout le monde qui a une petite silhouette de rêve comme on voit dans les magazines.
Et revenons à cette nouvelle sur l'arrivée imminente d'une semaine de la mode taille plus. T'en as pensé quoi, toi?
Ben, j'en ai justement fait un billet de blog sur le blog On est alors. Et honnêtement, c'est une super belle nouvelle. Je suis super contente, mais je trouve ça un peu bizarre, j'avoue, parce que tu sais, l'industrie de la mode à Montréal en général va pas très bien. On a même plus de semaine de la mode régulière, je te dirais. T'sais, on a le Festival Mode et Design, qui est un super beau festival qui encourage l'industrie de la mode. Mais c'est comme bizarre que les tailles plus ont leur semaine de la mode à elles. Puis aussi de les catégoriser à part, c'est comme si on fait juste encore plus, t'sais, les mettre à part, les séparer du reste de la société. Puis j'ai l'impression qu'avec le mouvement pro-diversité, on veut encourager une espèce d'équilibre puis d'unité à travers tout le monde. Puis là, on dirait que c'est pas ça qu'on fait.
On marginalise encore.
Exact.
Gabrielle, t'en penses quoi, toi?
La semaine de la mode plus? Bien, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose aussi que je trouve absurde sur le... généralement, ça va être, mettons, 14 ans, qui va être comme la ligne charnière entre les lignes régulières, t'sais, les tailles régulières et les tailles plus, que je trouve un peu étrange, surtout que c'est sur cette ligne-là que, je pense, 80% des femmes se trouvent. Donc, dans un sens, je trouve que ça devrait pas être aussi séparé. Par contre, je pense qu'au point où on en est en ce moment, je pense que c'est inévitable.
Oui, c'est ça.
Je pense qu'il faut commencer quelque part. Je pense qu'il faut commencer par imposer... Je sais pas. Je pense pas que tu peux faire changer les mentalités. Les mentalités changent pas d'elles-mêmes. Je pense que c'est inévitable de le pousser autant que possible jusqu'à temps que ça devienne normal. Je pense que c'est la seule façon.
Mais il me semble que ça aurait été plus intelligent, gros guillemets, là. Puis pour avoir parlé à la fille qui organise la semaine de la mode, je sais qu'elle-même a eu la même pensée que moi. Mais tu sais, faire un volet taille plus au Festival Mode et Design, c'est beaucoup plus inclusif.
T'sais. Ah non, c'est sûr.
Mais Gabrielle, excuse-moi, t'en venais à cette conclusion-là, parce que toi, justement, quand tu as signé ce texte aussi dans le livre Ton Tsouk, t'as pu voir à quel point il y a du chemin à faire encore aussi là, dans les
réseaux. Vraiment.
Oui.
Bien, tu sais, il y a une bonne partie du chemin qui est fait, je pense, parce que c'est vraiment un mouvement que tout le monde connaît. Ça a ses propres hashtags, ça a ses propres célébrités, tout ça. Par contre, je pense que plus on en parle, plus on se rend compte à quel point c'est pas accepté. J'ai l'impression que même plus on en parle, plus les réactions contre, plus les gens, justement, comme tu disais tantôt, se polarisent à fond.
Oui, c'est ça.
Se mettent à avoir une opinion là-dessus.
Parle-moi un petit peu du fat-shaming, ce qu'on appelle le fat-shaming. Comment ça se manifeste au juste?
En ligne, tu veux dire, ou dans la vie?
Ben, commençons par en ligne, parce que ça a beaucoup de parties de là.
Ben, ça passe beaucoup, je pense, par ce qu'on appelle les concern trolls qui vont parler de santé. Accuser justement les activistes ou les blogueuses de faire justement la promotion d'un mode de vie qui est malsain. Ça, je pense que c'est beaucoup parce que ça donne une excuse, en fait, pour porter un jugement sur quelqu'un qu'on connaît pas. C'est pas vrai, je pense, que tu t'inquiètes à ce point-là de la santé glandulaire. Tu sais, je pense pas que... C'est pas vrai que ça t'habite, tu sais, tu veux juste, dans le fond... imposer ton jugement sur quelqu'un qui a rien à voir avec toi... sous le couvert de la santé, ça, je pense que c'est super toxique.
Et te faire croire que toi, t'as raison dans ton obsession de la santé. Parce que c'est une obsession, ça aussi.
Définitivement. Puis je pense même pas que c'est tant à propos de la santé. Oui. Je pense que c'est à propos de... Puis ça, je veux dire, là, on en parle dans le contexte des femmes taille plus, mais je pense que c'est vrai pour toutes les femmes, probablement tous les humains, que quelqu'un qui regarde une autre personne va avoir tendance à juger de sa valeur en fonction de combien attirante elle est pour soi. T'sais.
Selon ses critères.
C'est ça, alors que quelqu'un ne vaut pas plus ou moins en fonction de si tu veux ou non coucher avec, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est de s'approprier l'image de quelqu'un d'autre en fonction de ses propres barèmes, de ce qui est séduisant ou pas, qui, je pense, est complètement à côté du point. Parce que les revendications de la plupart de ces filles-là, ou les miennes, c'est même pas de se justifier à voir si on est en santé quand même, comme Joannie qui fait plein de cités de sport, tout ça. C'est juste de pouvoir s'aimer tel quel sans que ça soit vu comme de la provocation, de juste s'accepter aujourd'hui. Ça devrait pas être un geste politique, je pense, de
c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que le mouvement est parti du fait que c'est ça, c'est d'apprendre à s'accepter soi-même d'abord, donc de pouvoir trouver sa place dans cette société-là, qui comporte toutes sortes de silhouettes, disons-le. Je veux dire, et quand on parle de diversité corporelle, pour moi, c'est pas juste taille plus, c'est aussi les filles très maigres qui sont tannées de se faire traiter d'anorexique ou d'espèce de brindilles. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est ce que je trouve important aussi de ce milieu-là, c'est que il défriche pour d'autres types de silhouettes aussi.
C'est surtout que la norme qu'on perçoit comme la fille du size normale n'est pas la norme, en fait. La norme, c'est pas nécessairement une petite, une jeune fille qui est blanche, hétéro, bien lentille, blonde, whatever. Il y a comme un cadre qui est bien serré, puis ça s'applique pour les gars aussi. C'est ce qu'on considère normal. Fait que tout ce qui sort de ça, on se permet de commenter dessus.
C'est quand même sidérant de voir que les filles ont à justifier leur comportement alimentaire ou de leur condition de santé. Moi, ça me tue. Je veux dire, quelle personne mince aurait à expliquer que... Parce qu'une personne mince peut passer sa semaine à manger des sacs de chips devant sa télé, on s'entend. Mais je veux dire, elle n'a jamais à se justifier là-dessus. Cette espèce d'association, il y a vraiment de surpoids et de mauvaises habitudes alimentaires est encore très, très forte, alors qu'il y a des données toujours plus récentes qui prouvent qu'on peut avoir une bonne forme physique tout en ayant un certain surpoids. C'est pas l'idéal pour personne. Personne souhaite ça. Personne s'est levé en disant « Hey, j'aimerais assez ça porter du 18, c'est ça. Donc, je trouve ça... Je trouve que le travail de Joannie est intéressant à ce sujet-là, mais en même temps, je me dis toujours « Oh mon Dieu, pourquoi on doit se justifier? » Parce que toi, Joannie, tu reçois même des commentaires dans la vie. T'en as reçu alors que tu t'entraînais, justement.
Justement, en vraie vie, là, live, j'allais faire du jogging sur le Mont-Royal où je vais marcher pas mal tous les matins. Puis il y a une femme cet été qui m'a dit « Ah oui, c'est toi qui tiens le blog Ronde et Alors. Mes amis et moi, on te croyait pas quand tu disais que tu faisais du sport. Ça te dérange pas, je vais même te regarder courir. » Tu sais, quelque chose comme ça. Puis sur le coup, ça m'a tellement choquée que j'ai rien pensé à répondre. Tu sais, j'ai aucune répartie. Là. J'ai tout perdu.
Mais t'aurais dû l'inviter à aller courir avec toi.
Ah oui, complètement.
Oui, oui. Toi qui t'en...
Puis tu vois, en plus, c'est drôle parce que t'es une fille très ronde. Puis je me disais, mais tu sais, il n'y a même pas de solidarité dans tout ça. Là. Je veux dire,
peut-on être solidaire
au moins? Est-ce qu'on peut comme se tenir un peu? Mais oui, complètement.
C'est étonnant. Hey, dis-moi, Gabrielle, mettons, on parle de préjugés sur la santé physique. C'est quoi encore les gros préjugés selon toi qui demeurent quand on parle?
Tu sais, j'ai l'impression que clairement, on assume justement que c'est des gens qui sont pas actifs ou qui mangent pas bien. Ce qui est probablement vrai dans une certaine mesure. Par contre, j'ai tout le temps l'impression qu'on accepte super facilement, mettons, que quelqu'un de tout maigre mange tout le temps puis engraisse pas. Ça, je sais pas, ça rentre.
Ça, c'est correct. Ouais.
Mais le contraire, quelqu'un puisse avoir un métabolisme, ce qui va retenir en plus de bouffe, ça, c'est impensable. C'est mathématique, une calorie rentre, une calorie sort, alors que le contraire, on l'accepte. Tu sais, c'est pas si simple que ça. Je pense que... J'ai l'impression que nos habitudes de consommation, ce qui est contenu dans la nourriture, a beaucoup changé, probablement plus vite que nos corps. Fait que j'ai l'impression qu'on s'adapte peut-être pas si facilement. Puis j'essaie de jamais me justifier, mais en même temps, ça reste que c'est pertinent. Puis je pense que c'est comme ça que tu le fais aussi quand tu parles de l'activité que tu fais. On n'est pas parfait. Je veux dire, j'ai vraiment moins actif que toi. Pas des si bonnes habitudes de vie que ça, mais pas pire que beaucoup de mes amis qui sont de taille normale. C'est vraiment égal.
Et so what?
C'est ça. J'aurais probablement été bien forte pour faire plein enfant sur deux patates en hiver, je sais pas. je pense que probablement qu'il y a beaucoup de corps, de morphologie, de métabolisme qui sont pas nécessairement adaptés à... C'est pas une justification, c'est juste que... Je pense pas qu'on devrait juger si fort des personnes parce qu'ils font la même chose que nous avec des résultats différents.
Mais ce qui est intéressant quand même avec, parce que c'est beaucoup des, ça a commencé beaucoup avec l'industrie de la mode. Les blogueurs réclamaient que les grandes marques, que les détaillants se mettent vraiment à jour puis offrent une offre intéressante pour les filles taille plus. Et ça a quand même bougé.
Ça a été long, par exemple.
Ça a été très long, exact. Mais on a longtemps eu des robes en patchwork puis
des genres de chemises trop lousses.
Exact.
Mais là, on voit qu'il y a une éclosion. Exact. C'est ça la bonne nouvelle quand même, parce que ça aussi, ça envoie le message que tout le monde a le droit de suivre les tendances. Et c'est pas vrai qu'il y a des tendances qui ne s'appliquent pas aux filles rondes. Ça, c'est une des choses dont tu parles beaucoup, Joannie, dans tes blogs. C'est ce qui est très intéressant.
Mais non, on peut porter tout ce qu'on veut, pourvu qu'on se sente bien dedans, là, complètement.
Absolument. Donc, on va suivre avec intérêt, éventuellement, l'arrivée de cette fameuse semaine de la mode. Merci à vous deux. Ça a été vraiment un grand plaisir.
Merci.
Merci.
Some part of us hesitates, and maybe you do. Maybe they lie to us when they push us to be a taller us. They don't know us, maybe you do.
On vient d'entendre un extrait de la chanson « Driven » de Foxtrot, dont nous parle Mathieu Charlebois un peu plus tard à l'émission. Mais tout d'abord, je jase avec Joanne Lauzon, rédactrice en chef adjointe à Châtelaine, qui aussi gère la section santé.
Oui.
Bonjour, Joanne.
Bonjour, Christelle.
On a parlé de santé, de toute façon, d'obsession aussi pour les bonnes habitudes tout à l'heure. Parce que, on va en revenir à ça. Là, on a beaucoup entendu un message public très fort dans les dernières années de « faites attention au gras, faites attention au gras, mangez-en moins ». Après ça, ça a été le sel, évitez le sel le plus possible. Là, le nouveau ennemi dans le collimateur de la santé publique, c'est le sucre.
Le sucre, une obsession totale. Le nombre de défis que j'ai vus sur les réseaux sociaux, ah oui. De 10 jours sans sucre, 3 semaines sans sucre, 3 mois sans sucre. Il y a même un livre ici que j'ai « Zéro sucre, mon année ». Une année sans sucre.
Une année sans sucre, oubliez-moi. C'est pas
la journaliste française a décidé de couper le sucre pendant un an. Elle raconte son expérience. Elle a fait une enquête. C'est fort intéressant, mais quand même.
Oui.
Alors, en fait, parce que l'espèce d'obsession qu'on a du sucre, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le sucre était partout.
Oui.
Quand on boit une bouteille de Coke, on sait que du sucre, c'est une boisson sucrée.
Oui.
D'ailleurs, une canette de Coke contient 10 cuillerées à thé de sucre.
Aïe, aïe, aïe,
okay? Fait que ça, c'est une chose. On sait qu'on boit quelque chose de sucré, mais quand on se retrouve à manger du pain, des craquelins, de la sauce à spaghetti, du beurre d'arachide, puis qu'on se rend compte qu'on ingurgite aussi du sucre quand on mange ces aliments-là, c'est là où ça devient un petit peu hallucinant.
Ça, c'est vrai. Il y en a partout, en fait.
Il y en a partout dans les plats surgelés. On dit que 80 % des plats, des aliments transformés à l'épicerie contiendraient du sucre.
Wow.
Fait que, juste comme exemple, le petit pot de yogourt qu'on apporte en lunch contient 6 cuillerées à thé de sucre. Le petit yogourt à la vanille, OK? Et 6 cuillerées à thé de sucre, c'est le seuil maximal qu'on devrait atteindre.
Dans la journée?
Dans la journée.
Mais parce que 6 cuillerées, ça me semble gros pour un petit pot de yogourt, mais ça me semble très peu pour une portion quotidienne.
Voilà. En fait, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui juge que entre 6 et 12 cuillerées à sucre, ce serait pas mal la limite. 6, ce serait l'idéal, mais bon, 6, c'est très, très vite atteint. On prend un petit yogourt, puis on l'a déjà...
Ça représente combien de grammes?
Ça représente entre 25 et 50 grammes.
Okay.
Puis on sait que les Canadiens consomment chaque jour, en moyenne, 26 cuillerées à thé de sucre.
On est loin du compte, là.
On est pas mal loin du compte. Fait qu'une façon facile de se retrouver, c'est qu'on prend... J'ai apporté mon emballage de yogourt.
Justement.
Et à l'endroit des aliments, il y a toujours un tableau de valeurs nutritives. On a les calories, le sodium, la vitamine A. Et on a les glucides. Glucides, c'est le synonyme de sucre. Et on devrait regarder, il y a toujours un pourcentage. Alors, on devrait se limiter à 15 % dans un aliment.
C'est un bon truc. Si l'aliment ne dépasse pas 15 %, on peut imaginer qu'on va atteindre à la fin de la journée notre limite.
Oui, on devrait être correct.
Bon, c'est intéressant de mentionner que le sucre est partout, parce que ça, c'est un peu la nouvelle donne, hein, avec l'explosion des aliments transformés. C'est une chose que l'on ne savait pas, mais ça, c'est une consommation un peu involontaire. Maintenant, il y a quand même une partie consciente, et c'est difficile. On a tous, en tout cas, on est nombreux à avoir de la difficulté à résister, par exemple, un morceau de soit de gâteau ou de la crème glacée, dépendamment de nos goûts, mais il y a quelque chose de très attirant.
Mais
pourquoi?
C'est parce qu'on est vraiment accro, littéralement.
Donc, c'est biologique, là. Il y a quelque chose qui se passe.
Oui, en fait, quand on prend du sucre, il y a quelque chose qui se passe dans notre foie et dans notre cerveau qui fait en sorte qu'on a envie d'en manger encore et encore. C'est addictif comme le tabac. C'est la même chose.
Ah, yeah, OK.
Et c'est drôle parce qu'il y a une étude qui a été faite sur des rats dans un laboratoire. Ils se sont mis à faire des études sur le biscuit Oreo, le fameux biscuit avec une gaufrette chocolat puis le centre blanc. Bien, ils se sont rendus compte que quand ils donnaient ça aux rats, ça avait un effet tellement fort, addictif, encore plus important que qu'aurait la cocaïne.
La cocaïne?
Ouais.
Non, drogué au Oreo.
Drogué.
Non, mais c'est quand même incroyable.
Oui, fait que les auteurs de l'étude ont dit, bien, ce qui se passe, c'est que le sucre seul, c'est une chose, mais le sucre mélangé au gras, c'est ça l'espèce de mélange explosif. En fait, le sucre et le gras, dans la nature, ça ne se retrouve jamais.
Ah,
ça a été créé par l'homme.
Ah.
D'autres études se sont rendues compte que quand ils donnaient du sucre à des rats, à un moment donné, le rat mangeait un peu de sucre puis il s'arrêtait. La même chose, on lui donnait du gras. Il mangeait un peu, puis il était rassasié, il arrêtait. On lui donnait sucre et gras.
Ça y est.
Il ne s'arrêtait plus et il devenait sédentaire.
Wow. Ça me fait penser à moi quand j'entame un pot de Nutella.
Sucre et gras sont au rendez-vous, effectivement. Mais bon, c'est quand même perturbant de comprendre que ça crée à ce point-là une dépendance. On pense à tous les biscuits, gâteaux, on pense aux enfants aussi.
Mais ça, est-ce que c'est juste dans le cas des sucres raffinés ou ou les sucres naturels? Comme
en fait, on parle de sucres ajoutés dans ce cas-là, parce que les sucres qui se retrouvent à l'état naturel comme dans les fruits, c'est correct. C'est juste qu'il ne faut pas... Non!
C'est inquiétant, malheureusement.
Puis quand c'est dans l'état naturel, tu vas manger une pomme, ben après, tu n'auras pas envie de t'empiffrer tant que ça. Michael Pollan dit d'ailleurs, si tu as faim, prends une pomme.
Okay.
Si tu n'as pas envie de manger ta pomme,
t'as pas vraiment faim. Oh, il est plate, Michael Pollan. Mais faut quand même dire, moi, ça m'inquiète de voir à quel point cette dépendance-là est importante, parce qu'on sait que le sucre, bon, est associé, eh bien, fait des ravages sur la santé. Naturellement, on l'associe à la carie dentaire, au diabète de type 2, bon, voire à l'obésité. Ouais. Mais là, la nouvelle donne, c'est que ce serait aussi un joueur important dans les maladies du cœur.
Tout à fait. En fait, ce qu'on pensait avant, c'est que le sucre avait un effet indirect sur les maladies cardiovasculaires. Mm-hmm.
Parce qu'on crée l'obésité, du diabète,
exactement.
C'est ça.
Puis là, on se rend compte que non, le sucre fait en sorte que ça stimule une sorte de cholestérol assez particulier qui rentre plus facilement dans les vaisseaux sanguins puis qui les endommage. Et on sait que quelqu'un qui mange beaucoup et qui boit beaucoup de boissons sucrées a 3 fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Fait que 3 fois plus, c'est assez important.
Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que la chose, c'est le truc qu'on donne à tout le monde, c'est de dire, ben, de ne pas en mettre dans son panier d'épicerie, des aliments transformés puis des aliments sucrés, et de cuisiner le plus possible. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on rajoute.
Quelles sources, oui.
Exactement.
Sont les sources de
sucre, effectivement. Puis, il y a une autre possibilité, c'est qu'on devient flexi no sugar.
Oh, nouveau concept, j'aime ça. Flexi no sugar.
On aime ça, les nouveaux concepts.
Hashtag flexi no sugar.
Ça veut dire qu'on coupe le sucre de son alimentation comme 5 jours sur 7, puis les 2 jours de week-end, par exemple, on se permet des petites douceurs. D'ailleurs...
Ah, ben ça ressemble à ce que je fais avec le vin.
Vous avez apporté des Oreos.
Ah non!
pour que vous puissiez...
On n'a pas le droit de consommer des substances illicites.
Je deviens votre pusher de sucre. Oh, en fait, c'est pour que vous puissiez finir votre journée en pleine forme. Oh, puis vous couperez le sucre demain.
Ben oui, c'est ça. Fait qu'on se bourre dans les Oreos. Merci beaucoup, Joanne.
Merci.
Au plaisir. Alors, tout en mangeant un Oreo, on va vers Martina Jogo pour la chronique « On mijote l'actu », où à chaque balado, Martina nous présente une nouvelle virale et surtout nous propose une recette pour mieux la digérer. Alors, Martina, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Tu nous as un petit peu donné le ton, là. On pense qu'on va parler de gars sexy.
Oui, alors on va parler d'hommes de politique et de sex appeal aujourd'hui. Je pense que ça va bien aller avec vos Oreos.
Que de bonheur,
c'est ça. Que du plaisir tout ensemble. C'est que chaque année, depuis 30 ans, le magazine People dresse une liste des hommes les plus sexy de la planète et nomme en fait l'homme le plus sexy de la planète. Mm-hmm. Cette année, savez-vous qui a été nommé?
Non.
David Beckham.
Oh, c'est pas
choix
une grosse,
classique.
C'est pas un gros,
non. C'est ça, choix classique qui venait sur les traces de Chris Hemsworth et de Adam Levine, qui avait quand même créé une certaine controverse l'an dernier. Peut-être parce qu'il était un peu moins musclé que les autres.
Ouais.
Donc, en guise de réponse à cette nomination assez prévisible, le magazine américain Vogue a dressé cette semaine son propre palmarès des 10 sex symboles non conventionnels, et parmi eux, un Canadien.
Ou le Canadien.
Oui, c'est ça. Ou le Canadien qui fait rêver le monde entier en ce moment, Justin Trudeau, ou comme les Français disent, Justine Trudeau. Oh. Donc, un homme que le magazine a décrit comme étant sexy, féministe et capable de tenir un bébé en équilibre sur une main. Donc, de quoi faire rêver toutes les filles, apparemment. C'était sans doute une référence à cette photo où Justin Trudeau tenait son fils Adrien dans une main au-dessus de la foule en campagne électorale cet automne. Et depuis qu'il a été élu, vraiment, la Trudeau-manie fait rage. On en écoute une preuve.
La rédaction ou...
Ça, c'est le mélange Oreo et Justin Trudeau.
Ça n'a aucun sens, hein?
Oui, mais, c'est ça.
Parce qu'on pourrait penser que c'est l'arrivée de One Direction au Centre Bell.
C'est ça,
exactement. C'est très aigu. Là.
On ne sait pas si c'est Justin Bieber ou Justin Trudeau.
Oui, c'est ça.
Mais ça, c'est le bruit de la foule qui a accueilli notre premier ministre au sommet économique de l'APEC à Mané, qui était à la base quelque chose de sérieux.
Wow. Un son rarement entendu au sommet économique de l'APEC.
Donc, c'était l'hystérie totale. D'ailleurs, le journal Philippine Daily Inquirer l'a nommé l'homme le plus sexy du monde libre. Et,
parce que quand même, Kim Jong-un est un petit peu plus sexy, là. Pour faire des nuances,
faut penser
de le monde libre.
Et d'ailleurs, il y a un hashtag qui est devenu populaire sur Twitter à ce moment-là, pendant le sommet, c'est APEC Hottie. Donc, donc ça, c'était une tendance, vraiment. Donc, et puis, dans la presse internationale, c'est encore et toujours son physique qui retient l'attention, à tel point que le New York Magazine, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, avait créé un petit graphique interactif. Et c'était une poupée où notre premier ministre était transformé en poupée de papier avec une feuille d'érable stratégiquement placée. Et là, on pouvait prendre notre souris puis glisser des morceaux de vêtements sur lui pour l'habiller à notre guise. Donc,
c'est juste étonnant. New York Magazine, hein, qui a fait ça?
New York Magazine,
oui. Parce que moi, je me rappelle, vous l'avez partagé sur la page Facebook de Châtelaine et ça a causé tout un tollé, cette affaire-là. Là.
Oui, ça a vraiment fait réagir nos internautes, en fait. Puis, les membres de notre communauté ont été vraiment indignés par cette affaire-là parce que, en quelque part, elles nous ont accusés de sexisme inversé, si on veut, en se disant, ben, si ça avait été une femme, vous n'auriez pas partagé un tel article. Comment osez-vous? Et puis là, bon, juste remettons les choses en perspective.
Mais c'est pas une femme.
Gabriel dit, mais c'est pas une femme. C'est ça.
Mais pour mettre les choses en perspective.
Juste pour mettre les choses en perspective, c'est pas Châtelaine qui a fait une poupée à l'effigie de Justin Trudeau. On a juste sur notre page Facebook,
on
partage.
On a l'idée, par contre.
Non, mais je suis assez d'accord avec quand même une partie des réactions parce que c'est sûr que ça peut être du sexisme inversé. C'est-à-dire, on n'aurait pas vu, par exemple, quelqu'un aurait fait une poupée de Mélanie Joly.
Ouais.
On aurait crié au scandale avec raison. Mais. Il faut dire que c'est moins habituel, cet engouement sur l'apparence physique d'un politicien. Les politiciennes sont familières avec l'idée d'être scrutées à la loupe sur leur physique. C'est Hillary Clinton qui disait « si je veux détourner l'attention des médias, je change de coupe de cheveux ». Alors, elles sont plus habituées à ça. Je serais vraiment curieuse de voir comment lui gère ça, parce que c'est limite l'homme-objet ici, là.
Oui, exactement. Mais en fait, je pense... Gabrielle, tu disais tout à l'heure, mais c'est pas une femme. Puis je trouve ça très pertinent parce que j'ai entendu dans une discussion entre des féministes, mettons, américaines, c'était aussi une discussion radio autour de Justin Trudeau, justement. Puis elle disait, mais les femmes ont des siècles de déficit de sexisme à rattraper, puis c'est pas une femme.
Et ça nous permet de réaliser ce que les femmes subissent, bien, tant mieux.
C'est moins réducteur pour lui aussi. J'ai l'impression que c'est plus... J'ai l'impression que c'est plus positif, moins dégradant. Je sais pas, c'est peut-être juste ma perception.
Mais j'ai l'impression que pour un homme, on ne prend pas pour acquis qu'il n'est que sexy.
Right.
Alors que le problème, si on mettait de l'avant le côté sexy d'une femme à ce point, ça voudrait dire qu'elle n'est que ça. C'est la grosse différence, je pense.
Surtout Saint-Blanc, là, c'est un fait.
Ouais, non, un combo.
Ouais, Mathieu Charlebois, je serais curieuse de voir homme de la balado, qu'en penses-tu, toi?
Ben moi aussi, ça m'arrive tout le temps.
Oui, on sait. D'ailleurs, il vient avec 3-4 couches de linge parce qu'on y arrache à chaque
fois. En fait, non, s'il y a une réflexion qui me vient là-dessus, c'est j'espère que les journalistes, ceux qui écrivent tous ces textes-là, puis tous ces superlatifs-là sur la beauté du premier ministre, vont se relire bientôt et se rendre compte que, hey, ça a l'air épais, ça a l'air aussi niaiseux que ça quand ils le font pour les femmes. Pourquoi on n'arrêterait pas de le faire comme
point.
En général?
Oui, c'est ça, exactement.
Tout le monde, autant Justin que Justine.
Exactement.
Pour la fond,
bon, mais dis-moi, Martina, je suis quand même curieuse de voir quelle recette tu nous as concoctée pour aller avec cette nouvelle.
Alors, il paraît que Justin Trudeau adore la cuisine asiatique, ce qui est d'ailleurs de bon ton pour le député d'un coin aussi multiethnique que Papineau. Alors, je vous propose de digérer cette nouvelle avec un bol de nouilles ramen au bacon et à l'œuf qu'on va retrouver sur châtelaine.com/balado.
Alors, début décembre, c'est déjà le moment de se mettre en mode Noël. On voit poindre un peu partout des marchés de Noël. Ça, c'est plus récent dans notre culture à nous, beaucoup inspiré de la culture européenne, particulièrement la culture allemande.
Oui, tout à fait.
Annabelle Moreau, bonjour.
Bonjour.
Tu es gestionnaire des réseaux sociaux de Châtelaine, entre autres, mais tu signes aussi un petit article dans le numéro de décembre où tu nous partagent justement les marchés de Noël les plus intéressants, parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a vraiment beaucoup. Ça s'est beaucoup multiplié dans les dernières années. Moi, j'ai sélectionné 3 marchés plus traditionnels aujourd'hui. Mais informez-vous, parce qu'il y en a vraiment dans les quartiers, dans les villages, dans toutes les régions du Québec,
autant
des trucs traditionnels que des trucs plus design. Et moi, je vous le dis, le mot d'ordre, c'est se faire plaisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du grand marché de Noël de Montréal à la Place des Arts. C'est une nouveauté. Enfin, on a un marché urbain à Montréal. Donc, on l'a attendu depuis longtemps. Ça va être à la place des festivals. Évidemment, il y aura le Père Noël, ses lutins, son village, mais aussi une foire enchantée et des producteurs et des artisans comme dans un marché plus traditionnel. Donc, c'est du 12 décembre au 2 janvier et ça va se terminer avec un gros party du jour de l'an pour ceux qui restent à Montréal à ce moment-là. Sinon, il y a le marché de Noël allemand de Québec qui est très beau.
Vraiment dans la pure tradition.
C'est vraiment des petites maisonnettes en bois. C'est en face de l'hôtel de ville à Québec, dans une place très traditionnelle. C'est très beau. On retrouve des produits d'ici, mais aussi des spécialités allemandes, des prêts des saucisses, du vin chaud, des gâteaux de Noël qui sont importés d'Allemagne directement pour l'occasion. Donc, c'est vraiment un marché très authentique et très intéressant. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler aussi du marché de Baie-Saint-Paul parce que c'est une destination qu'on pense surtout l'été. Mm-hmm. On va là-bas, c'est beau, c'est le fun, c'est une ville qui est très axée sur l'art, mais ils font aussi un marché de Noël à l'intérieur, à l'extérieur, qui invite encore les artisans. Et il y a une course des Pères Noël, donc pour ramasser de l'argent.
Une course des Pères Noël.
Oui, des Pères Noël.
Eux en ont plusieurs.
Oui, c'est ça. Tout le monde est invité à se déguiser en Père Noël, à faire une course et à ramasser de l'argent. Donc,
c'est pour une bonne cause.
Oui, tout à fait.
OK. Et ça se passe quand, ce marché-là, exactement?
Donc, ce marché-là a lieu la fin de semaine du 4 au 6 décembre, donc très bientôt.
Excellent. Merci beaucoup, Annabelle. Mathieu Charlebois.
Oui.
Homme musical.
Oui. Foxtrot. L'artiste s'appelle Foxtrot. Okay. Le disque s'appelle A Taller Us. Si vous cherchez un album de Noël, il va falloir trouver d'autres choses.
Okay.
Il va falloir trouver quelqu'un d'autre parce que j'aime pas les disques de Noël. Donc, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. La dernière fois que je vous ai parlé d'un disque de musique électronique, c'était Churchill. C'était de la musique très, très, très sucrée. Ça a l'air que le sucre, c'est pas bon. Donc, voici un album de chansons électroniques sans excès de sucré. C'est quelque chose de très, très dans la retenue et dans l'économie. Il y a deux façons de faire de la musique électronique. Soit t'étales des couches de synthé puis de beat parce que tu peux, t'es sur un ordinateur, t'as pas besoin d'appeler l'orchestre symphonique. Si t'en veux un, tu le mets. Et donc, t'as cette façon-là et t'as la façon inverse, c'est-à-dire de mettre au minimum puis de travailler chaque son de synthé que tu mets puis d'avoir vraiment le moins de choses possible. Et c'est ce que Foxtrot fait. Elle tient ça vraiment au minimum. Okay, elle concentre.
Foxtrot est une.
C'est une personne qui s'appelle Marie-Hélène Delorme.
OK.
Son projet Foxtrot roule en concert depuis, je pense, 3 ou 4 ans, puis elle travaille son album depuis ce temps-là. Et le travail se sent.
Oui.
Tout est très, très. Tout ce qui est là, c'est parce qu'elle voulait que ce soit là. Parce qu'il y a des pièces où il y a juste un beat, 2 synthés, sa voix. Et c'est tout. C'est très, 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 très dépouillé, très, très minimaliste. Mais c'est quand même super riche et pas pauvre pour autant. Justement parce que c'est conçu avec soin. C'est riche, ça a de la profondeur et c'est un album qui se bonifie avec les écoutes. Les mélodies sont juste assez accrocheuses, mais pas trop. On s'écœure pas rapidement. Puis un album très, très bien tricoté de l'électronique un peu sombre avec une voix justement un peu sombre, un peu intense, mais pas trop. C'est pas un album de nuit sombre et torturé, mais c'est pas un album de « il fait 32 dehors, je m'en vais sur la plage ».
C'est un bel album de jour de pluie de début décembre avec un mélange de flocons et de pluie.
Crépuscule un peu. Genre le soleil est en train de... 4h30
l'hiver. Oui, précisément.
4h30 l'hiver, là. Exact. Fait pas clair, fait pas noir, c'est juste... C'est ça, okay. C'est cet album-là.
Excellent.
C'est
on se met en petite boule et on écoute
vraiment, ça. Donnez-y 2-3 chances. C'est avec à chaque écoute, il devient meilleur.
Oh.
Alors, donc l'artiste s'appelle Foxtrot, l'album s'appelle A Taller Us et on va écouter une dernière chanson en se quittant.
Merci beaucoup Mathieu, merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour cette balado châtelaine. À bientôt. I'll return.